Salut les bienvenus dans ce 15e épisode de JT Sport, le podcast étudiant qui revient sur les actualités sportives de la semaine. Au sommaire aujourd'hui, on reviendra avec Clément sur les performances des clubs français en Coupe d'Europe. Arthur nous parlera du Stade Toulousain Basket qui recevait Mulhouse vendredi soir. Thomas racontera les 5 infos qui l'ont marqué la semaine dernière. Et on évoquera ensuite l'incroyable saison de Pierre-Emerick Aubameyang avec l'OM. Ce sera Enzo qui nous présentera ça. Le débat cette semaine sur Pays de Galles France avec Pierre et Paul-Adrien. Et on terminera l'émission avec notre traditionnel quiz. J'espère que vous avez bien révisé l'actualité sportive.
C'est un génie.
Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France. La victoire de Pierre Gasly, il l'a fait.
Je crois qu'après avoir vu ça,
les clubs français ont fait bonne figure cette semaine sur la scène européenne, Clément.
Et ils ont même fait plus que ça, Timothée. Fait assez rare pour être souligné, les 3 clubs français engagés en Coupe d'Europe cette semaine ont gagné et filent tout droit vers les quarts de finale. Le PSG, l'OM et le LOSC ont été victorieux. Paris a assuré sa qualification en quart de finale de Ligue des Champions, tandis que Marseille et Lille ont largement remporté leur 8e de finale aller d'Europa et de Conference League. Sauf catastrophe, on devrait donc avoir 3 clubs français en quart de finale des compétitions européennes. Il faut remonter à 2004 pour retrouver 3 clubs français à ce stade-là des Coupes d'Europe. C'était alors Monaco et Lyon en Ligue des Champions et Marseille et Bordeaux en Coupe UEFA qui avaient porté haut les couleurs tricolores.
On commence par la compétition Rennes avec une qualification rassurante pour Paris en Ligue des Champions.
Le Paris Saint-Germain a obtenu sa qualification en quart de finale de Ligue des Champions en éliminant la Real Sociedad. Après une victoire 2-0 au Parc, les joueurs de Luis Enrique ont terminé le travail en Espagne avec une victoire 2-1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Cette victoire peut sembler anodine face à un adversaire qui n'a pas vraiment posé de problème. Mais hormis l'année Covid du Final 8, le PSG n'a atteint ce stade de la compétition que 2 fois depuis 2016. Les Parisiens attendent désormais tranquillement le tirage au sort des quarts vendredi.
En Europa League, Marseille a impressionné à domicile.
Métamorphosé depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset avec 5 succès consécutifs, les Phocéens ont coulé le sous-marin jaune de Villarreal au Vélodrome. Une victoire 4-0 nette et sans bavure, avec Pierre-Emerick Aubameyang comme nouveau meilleur buteur de l'histoire de la compétition après son doublé. Les Olympiens devraient donc se qualifier sans encombre pour le tour suivant, parce que bon, se faire éliminer face à un club espagnol après avoir gagné 4-0 à l'aller, ça semble quand même vraisemblable.
Ouais, c'est ça, ouais. Le LOSC a fait le boulot dans la Benjamine des Coupes d'Europe.
Avec un tirage plutôt clément, les Lillois n'avaient pas le droit à l'erreur en Autriche. Mais portés par un Jonathan David en forme olympique, auteur d'un doublé, les hommes de Paulo Fonseca se sont imposés sur la pelouse du Sturm Graz. Une victoire 3-0 qui devrait leur ouvrir les portes des quarts de finale de la Conference League, stade toujours atteint par les clubs français, sauf le Stade Rennais, depuis la création de la compétition il y a 2 ans. En assurant un retour jeudi devant son public, le LOSC peut s'offrir le droit de rêver, en espérant un tirage facile en quart.
Oui, et au-delà des performances, c'est une très belle opération au niveau de l'indice UEFA.
Avec ses succès, la France devrait garder sa 5e place au coefficient UEFA. Une bonne nouvelle qui arrive à point en perspective de la saison prochaine. Avec le nouveau format des Coupes d'Europe, la France aura donc 7 participants sur la scène continentale. On espère que ça permettra à un club français de ramener le titre dans l'Hexagone dans les saisons à venir.
Ouais, et pour rappel, seulement 2 trophées européens pour les clubs français, la Ligue des Champions pour l'OM en 1993 et la Coupe des Coupes pour le PSG en 1996. Merci beaucoup Clément, on passe au Réjournal. Et cette semaine, Arthur, on se penche sur le basket et on file en National 1, la 3e division française, dans laquelle le Stade Toulousain Basket évolue.
Oui, Timothée, vendredi soir, les Toulousains jouaient le premier match de la deuxième phase de cette compétition très relevée. Un deuxième championnat commence dans une poule de 10, à l'issue duquel les 7 premiers pourront se qualifier pour des play-offs et donc espérer une montée en Pro B. C'est en tout cas l'objectif du coach des Tauros, Laurent Mopsus. Il recevait donc Mulhouse au Petit Palais des Sports pour le compte de la 27e journée, première de la seconde phase, mais n'ont pas réalisé le match qu'il fallait pour empocher leur première victoire. Une défaite logique des Tauros sur le score de 73-86 en faveur des Mulhousiens. Un match manqué des Toulousains avec une très faible adresse à 3 points, seulement 3 shoots marqués sur 18 tentés, mais aussi un timide 14 sur 22 au lancer franc. Les Toulousains ont couru après le score tout le match, mais on a tout de même cru à une remontada dans le troisième quart-temps, grâce notamment au meneur et capitaine Victor Mopsus, qui était là pour apporter une grosse intensité défensive et permettre de récupérer des ballons, concrétisé ensuite par Luka Nikolic, meilleur scoreur du match avec 17 points. Mais ça n'a pas suffi. Les 21 ballons perdus par les Tauros ont permis beaucoup de paniers faciles aux Alsaciens. Sans grande inspiration en attaque, de nombreuses possessions se sont terminées par des shoots compliqués, ce qui explique cette faible adresse.
Un match à oublier pour le Stade donc. Et du côté des Orinois, qu'est-ce qui a fonctionné pour leur permettre de gagner ?
En face, Mulhouse était dans un trop grand soir pour laisser passer la victoire. En témoigne la grosse performance de Lucas Vérague qui termine la rencontre avec 14 points en commençant avec un gros 3 sur 3 à 3 points dès les premières minutes de jeu. Les hommes de Lorient Dolt terminent le match à 55% au shoot avec 42% d'adresse à 3 points. Et on peut aussi souligner la fin de match XXL de l'ailier mulhousien Florian Poivet-Youn, 2m03, qui était partout en défense comme en attaque et termine la rencontre avec 10 points et 10 rebonds avec de très gros highlights. Dunk contre avec la planche, il a martyrisé les paniers du Petit Palais et a laissé au public le soin d'admirer ses qualités athlétiques. En l'absence de leur meneur titulaire Thomas Vincent et sans un gros match de leur meilleur scoreur habituel, le pivot Victor Serrano, probablement blessé, le collectif mulhousien s'est mobilisé pour arracher cette victoire de 13 points, 73-86.
Des Toulousains qui affrontent Orchies ce mardi avec toujours le même objectif, les playoffs. Merci beaucoup Arthur pour ce débrief, j'accueille Thomas pour les brèves. Thomas, c'est toi qui nous donnes 5 actus qui t'ont marqué cette semaine.
Il n'aura tenu que 2 reprises. Benoît Saint-Denis s'est incliné dimanche face à Dustin Poirier lors de l'UFC 299. En MMA, le Français avait pourtant dominé la première reprise avant de prendre 2 crochets dévastateurs de la part de l'Américain. Classé numéro 3 mondial, le natif de la Louisiane devrait combattre pour le titre prochainement. Pour l'ancien militaire français, il s'agit de rebondir après un combat perdu, amoindri par un staphylocoque et des antibiotiques. Il pourrait revenir en septembre lors de l'UFC Paris. Le sublime duel entre Liverpool et Manchester City a de nouveau livré une bataille incroyable. Pour le dernier duel en championnat entre Pep Guardiola et Jurgen Klopp, les deux équipes se sont neutralisées. Alexis McAllister a répondu sur penalty à John Stones. Cette formidable bataille à deux des dernières années va accueillir un petit nouveau, Arsenal. Les Gunners se sont invités à la table des deux colosses des dernières années. Les hommes de Mikel Arteta sont premiers au classement après leur victoire face à Brentford. Qui a dit que le meilleur de la carrière de Gaël Monfils était derrière lui? Le Français continue de nous régaler comme à ses plus belles heures. 54e au classement ATP, il a éliminé le Polonais Hurkacz 6-0, 6-7, 6-2 avant d'éliminer Cameron Norrie au tour suivant. Le Britannique, 12e mondial, a été éliminé au deuxième tour d'Indian Wells aux États-Unis. Habitué de ses coups d'éclat et de génie, le Messin ne s'interdit rien et rêve de participer aux Jeux Olympiques. Derrière ses compatriotes Hugo Humbert et Adrian Manarino, Gaël Monfils est en bonne voie pour disputer les Jeux à Paris en juillet. Yannick Borel éblouit toujours autant de son talent. Dans un contexte compliqué, miné par des tensions internes, la France a de grandes chances de se qualifier pour les Jeux Olympiques 2024 en épée. Minée par des tensions internes, elle s'en est remise à son capitaine Yannick Borel. Le meilleur épéiste français et champion olympique a notamment écarté en demi-finale l'Italien Davide Di Verrolo sur le score de 15-7. Au tour suivant, il a dominé Gergely Sziklosi, le Hongrois qui jouait pourtant à domicile. Sans Jonas Vingegaard ni Tadej Pogacar, cette édition du Paris-Nice était plus couverte. C'est un Américain qui s'est imposé en France en la personne de Matteo Jorgensen. Le leader de la Visma Lease Bike a remporté une course très indécise. Jusqu'à la dernière étape, le leader se nommait Brandon McNulty qui a bien résisté avant de lâcher dans les derniers kilomètres.
Merci beaucoup Thomas pour ces 5 actualités de la semaine. C'est l'heure de la carte blanche. Enzo va nous parler de Pierre-Emerick Aubameyang. Il est devenu jeudi 7 mars le meilleur buteur d'Europa League. L'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a marqué un doublé face à Villarreal en 8e de finale aller de Ligue Europa au Vélodrome. 33 buts au compteur, il dépasse le Colombien Radamel Falcao. Dimanche soir, il a inscrit un doublé face à Nantes. Aubam a donc retrouvé chaussure à son pied, Enzo.
Top joueur pour certains, sans constance pour les autres, Aubameyang revit à Marseille. Après une pige en demi-teinte à Barcelone, il est arrivé dans la cité olympienne avec une seule idée en tête, briller. Et autant vous dire que c'était très mal parti, c'était le 4 novembre dernier face au LOSC, l'OM est copieusement sifflé par son public et son attaquant phare, Pierre-Emerick Aubameyang, a reçu une bronca maison au moment de son remplacement par Joaquin Correa à la 77e. Le Gabonais est bloqué à ce moment-là à un seul petit but en 10 matchs de Ligue 1.
Bon, il y a quand même 2 buts tout de même en Ligue des Champions contre le Panathinaikos, mais ça reste un début de saison compliqué malgré tout. Dis-moi, l'OM a longtemps été en quête de chercher son grand attaquant, mais sans jamais le trouver réellement. Il y a eu Mitroglou, il y a eu Valère Germain, il y a eu Benedetto, plus récemment il y a eu Vitinha. Qu'est-ce qui semble marcher pour le natif de Laval ?
Il y a une part de mental, hein, bien sûr, Timothée, chez Aubameyang, et c'est ce qui a pu manquer, je pense, chez les autres. Il y a l'expérience aussi et le standing de l'attaquant. Meilleur buteur avec le Borussia Dortmund en 2017, meilleur buteur en Première Ligue en 2019. On fait face à un gros calibre. Les supporters ont pu se poser la question après les saisons ratées avec Arsenal en 2021, Barcelone en 2022 et en 2023 avec Chelsea. Mais pour répondre clairement à ta question, le déclic pour moi il est flagrant, c'est le match face à l'Ajax Amsterdam en décembre. L'OM avait gagné 4-3 et le Gabonais avait inscrit un triplé. Il avait célébré, je ne sais pas si tu te rappelles, le visage fermé face au virage nord, une manière pour lui de montrer qu'il était présent et investi pour Marseille. Actuellement, Aubame, c'est 38 matchs, 21 buts et 8 passes décisives, toutes compétitions confondues. Alors avec l'ancien entraîneur, l'italien Gennaro Gattuso, Marseille traversait une période de crise. Sur les 11 derniers matchs, les attaquants olympiens marquaient un but et demi. Depuis l'arrivée du coach Jean-Louis Gasset, l'attaque fracasse les buts adverses, 16 buts en seulement 4 matchs. Et sur ces 16 buts, Pierre-Emerick a marqué 6 buts et a délivré une passe décisive.
Est-ce qu'à 33 ans, tu penses que ça reste le même attaquant qu'à Sainté, Dortmund ou Arsenal ?
Bah clairement pas, vous n'avez pas vos jambes de 20 ans à son âge, il a toujours eu la chance d'être accompagné par des ailiers qu'on appellerait des ailiers de luxe, et il s'est adapté. À Dortmund, il misait sur la rapidité avec des joueurs comme Marco Reus ou encore Ousmane Dembélé, et à Arsenal, il y avait des créatifs qu'il envoyait en profondeur. Alors encore une fois, il faisait parler sa rapidité, et aujourd'hui, à Marseille, c'est un Aubameyang 2.0 qui joue. Il sert souvent les joueurs de centre comme Jonathan Clauss ou Amin Harit. Il vient chercher les ballons comme un numéro 10 et développe une forte capacité à jouer en pivot face au jeu. Mais une chose est restée chez le numéro 9, c'est sa technique et son instinct de tueur face au but. Il est tout simplement chirurgical. Et dans de bonnes conditions, il est capable de sortir l'OM du trou. Je vais finir tout simplement par merci Pierre-Emerick Aubameyang.
Oui, merci. Pierre-Emerick Aubameyang qui, je le rappelle, a l'occasion de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la C3, Ligue Europa et Coupe de l'UEFA et Coupe des Coupes confondues, s'il marque encore 5 buts en dépassant donc Henrik Larsson, la légende Henrik Larsson. Merci beaucoup Enzo et on passe tout de suite au débat. J'accueille Pierre et Paul-Adrien pour le débat du jour. La victoire du 15 de France face au Pays de Galles efface-t-elle le début de tournoi plus que mitigé des Bleus ? Pour toi, Paul-Adrien, pas du tout.
Ah non, en effet, hein, je pense pas que cette victoire, bien qu'épatante, va effacer le début de tournoi plus que mitigé de l'équipe de France. Alors, Timothée, tu vas me demander pourquoi. Alors, c'est pour l'instant comptablement le pire bilan de l'ère Galtier depuis qu'il est arrivé en tournoi destination. Alors certes, aucune équipe ne fera le grand chelem cette année, on rappelle que l'Irlande a perdu d'un petit point en Angleterre la semaine dernière, mais à moins d'un scénario improbable, la France ne glanera pas le trophée cette année. Mais revenons-en au match, alors oui, le contenu a été bien parfois, mais on rappelle que le Pays de Galles est dernier du tournoi. Alors même si ça reste une nation historiquement forte de ce sport, ça fait 2-3 ans que la fédération galloise est en perte de vitesse. On pense notamment à l'ailier Rhys Zamit qui est parti faire du football américain. La preuve au classement pour l'instant, hein, le Pays de Galles joue à la cuillère de bois, c'est loin d'être l'équipe galloise victorieuse en 2021.
Alors oui, certes, mais il y a quand même un grand nombre de satisfactions sur ce match de dimanche. Je pense surtout à Nolan Le Garec, le Breton, qui a vraiment fait un bon match. La preuve, hein, il a été élu homme du match. Il faut quand même rappeler que c'est sa première titularisation en bleu seulement, alors qu'il a joué que 4 matchs en tout. Moi, je me fais pas de soucis, franchement, s'il affiche le même niveau de performance à chaque match. Il a été très inspiré. D'ailleurs, l'une des images de ce week-end du rugby, c'était sa chistera somptueuse qui a d'ailleurs failli amener un essai. Mais pas que les titulaires hein, ont été bons, le banc m'a vraiment convaincu. La première période était assez compliquée, c'est vrai, mais il y a eu un très bon coaching. Les entrants nous ont vraiment fait du bien, ça a dynamisé le 15. Regarde Taofifé Noua, Colombe et Lucu qui ont tous les trois inscrit un essai alors qu'ils sont sortis du banc. Et grâce à ça, on déroule vraiment hein, en deuxième. Il y avait 20 à 17 à la pause. Si on prend seulement la deuxième période, on leur met 25 à 7 et c'est en grande partie dû aux jeunes et au banc.
Mais justement, la jeunesse pour toi, PA, elle n'est pas assez exploitée depuis le début du tournoi.
C'est là que le bât blesse, hein, Timothée. Puisque tu parles de jeunesse française, Pierre, tout n'a pas été parfait. On pense notamment au jeune arrière Léo Barré, le joueur du Stade français qui a eu du mal à trouver des repères en première période en tant qu'arrière dans cette équipe. Et puis Nicolas Desporter, alors même si sur les ballons de transition et sur les possessions rapides, il a eu quelques ballons à se mettre sous la dent en défense, ça a été beaucoup moins joyeux, c'est lui le premier responsable de la percée de Rio d'ailleurs, l'ailier virevoltant du Pays de Galles. Alors sur quelques possessions galloises, on avait l'impression que cette équipe marquait à chaque fois, alors attention à la défense, je le rappelle. Et puis je voudrais souligner aussi le retard qu'a pris Fabien Galthié pour ne pas faire confiance aux jeunes. Tu as parlé notamment de Nolan Le Garec, hein, qui a été sélectionné 4 fois. Cependant, c'était que sa première titularisation. Je voudrais aussi souligner le fait qu'il n'a pas pris beaucoup de jeunes, comme par exemple Esteban Abadi, le joueur du rugby club toulonnais. Alors, c'était face à l'Irlande hein, qu'on avait le moins de jeunes, et d'ailleurs, on s'en est pris 38, on a bien vu que c'était ça le principal défaut. Donc pour moi, tant que Galthié ne prendra pas de risque à titulariser plus de jeunes, ce match ne servirait pas de point de référence.
Je te trouve dur, moi, il y a quand même des choses, selon moi, qui marchent hein, dans cette équipe. Sur le match de dimanche, je vois une vraie valeur sûre, notre mêlée. Galthié sait que c'est un maillon fort du 15 de France, il s'appuie vraiment dessus, on a l'un des packs les plus lourds et il le sait. Encore dimanche, la mêlée française a vraiment pris le dessus sur les Gallois. Puis on en a parlé, il y avait des jeunes, des habituels remplaçants dans l'équipe titulaire hein, contre les Pays de Galles. Alors oui, c'est pas le meilleur Pays de Galles qu'on ait connu, il faut le reconnaître, tu l'as dit. Mais c'est quand même satisfaisant de pouvoir gagner là-bas en plus, et en plus en ayant fait un peu tourner. Ça avait quand même tous les contours d'un match piège, dans la chaude ambiance de Cardiff, mais ça a été très bien négocié par le 15 de France. Samedi soir, il y avait quand même un France-Angleterre, hein, le crunch, si on voit les mêmes choses que lors de la seconde période face aux Gallois, bah moi j'ai envie d'être optimiste. Et puis sinon, bah on pourra compter sur nos jeunes.
Oui, c'est ça, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup messieurs, on termine maintenant par le quiz.
Ah oui, la concurrence. Qui est meilleur? Qui est meilleur? C'est le meilleur. Ah, si il est un peu répond parce qu'il est...
Excusez-moi, je m'énerve, mais parce que des fois il me gonfle.
Et pour ce quiz très spécial, j'accueille à ma droite Pierre, Paul-Adrien, Clément et Enzo. Et à ma gauche, j'accueille des anciens de JT Sport, des anciens et des anciennes, même Hugo Laborde, Paul Grelier et Julie Vialon. Je vais poser la première question pour vous départager. Ça va être un quiz très spécial. On est 7 dans ce studio aujourd'hui. Première question, qui a remporté Tirreno Adriatico?
Jonas Vingegaard.
C'est une bonne réponse à ma droite, Jonas Vingegaard, qui a écrasé la concurrence et qui devance largement Juan Ayuso, meilleur jeune et meilleur sprinter, et Jay Hindley. 1-0 pour l'équipe des 1A. Deuxième question, je vous parle de foot féminin. Quelle sera l'affiche de la finale de la Coupe de France?
Fleury PSG.
C'est une bonne réponse à ma gauche. Bravo. Bravo à Paul. C'est Fleury PSG, les Floriacumoises qui ont sorti l'Olympique Lyonnais au tir au but. Le PSG qui a éliminé le Paris FC aussi au tir au but. Question maintenant en biathlon. Qui a remporté samedi soir le sprint de Soldierolo?
Éric Perrault.
Je l'ai entendu à ma droite, c'est Éric Perrault. C'est une bonne réponse à 22 ans, c'est sa toute première victoire en Coupe du Monde. Émilien Jacquelin a pris la deuxième place. Une belle victoire en Coupe du Monde pour nos Français qui ont connu une saison difficile. Basket féminin, donc 2-1 à ma droite. Quelle équipe a réalisé un exploit historique en se qualifiant pour le Final Four de l'Euroleague?
Villeneuve d'Ascq.
C'est une très bonne réponse et c'est une victoire de nos 1A. Villeneuve d'Ascq qui s'est imposée en Hongrie à Miskolc. C'est la première équipe française au Final Four depuis Bourges il y a 10 ans en 2014. Elles affronteront l'USK Prague. Petite dernière question quand même pour la route.
Pour l'honneur.
Question en handball. Le Montpellier Handball a réussi un exploit jeudi dernier. Lequel?
Il a éliminé le Barça.
Oui, c'est une très bonne réponse. Victoire. Victoire 4-1 pour les premières années.
Oui, monsieur.
Le Montpellier Handball qui a réussi à battre le FC Barcelone sur son parquet. Victoire 37-34. La toute première de son histoire à Barcelone. Montpellier qui affrontera Zagreb en barrage à la fin du mois. Merci beaucoup d'avoir suivi ce 15e épisode de JT Sport. On vous invite évidemment à nous suivre sur nos réseaux sociaux, toujours les mêmes, Instagram, Twitter et Facebook. On se retrouve la semaine prochaine sur Deezer et Spotify. Et d'ici là, vive le sport. Au revoir. Vallon.